Je lis les pages d'un livre.
Les dieux des petits riens.
Le monde est alors celui de ce livre.
Nabokov.
Le monde est dans le livre.
100 ans de solitude.
Le monde est le livre.
Littérature sans frontières. Sophie Écoué, Camille Geoffrey.
Bonjour. Vous vous souvenez peut-être de son roman Le Petit Dictionnaire chinois-anglais pour amants, paru en France chez Piquet il y a quelques années. Et ce sont des tribulations londoniennes de Mademoiselle Z ou le supplice anglais d'une chinoise en Europe. Une expérience personnelle qui va prendre la forme d'un insolite et réjouissant dictionnaire intime où chaque nouveau mot est un étonnement, une expérience et même une désillusion. Mademoiselle Z est une jeune fille au caractère bien trempé, un petit peu comme sa créatrice, la cinéaste et poète romancière Zhao Luguo, avec qui elle partage le même aplomb, la même naïveté et ce bel appétit pour la vie. Des attributs que l'on retrouve d'ailleurs chez Fang Fang, la narratrice de son dernier roman, Les 20 fragments d'une jeunesse vorace, paru chez Buchet-Chastel.
This is Xiaolu speaking. I'm from China. I'm from Zhejiang Province. It's the southeast part of China.
Je m'appelle Xiaolu et je viens d'une région du sud-est de la Chine. Je suis actuellement en Europe, entre Londres et Paris, pour réaliser des films, écrire des romans, mais ma vraie maison est à Pékin. Mon nom, Xiaolu, a été donné par mon père qui était pêcheur. Cela signifie « la petite pagaie qui rame ». Et les gens me disent que c'est un nom poétique. Mais en fait, c'est un nom qui implique une vie difficile. Cela implique que je suis sans demeure et ballottée par les courants. Donc je pense qu'on devrait être très prudent quand on choisit un prénom pour ses enfants.
Alors je suis particulièrement ravie, contente de vous rencontrer, Zhao Luguo, parce que lorsque j'ai lu ce livre et qu'ils m'ont fait lire vos premiers ouvrages, je me suis dit, je suis très curieuse de voir cette personne qui écrit avec autant de rage, avec autant d'audace, avec autant de froideur parfois, autant de dérision et beaucoup de colère. Alors, est-ce que vous êtes une femme, une écrivain, une cinéaste en colère?
Lorsque j'écris, car j'ai commencé à écrire des poèmes très jeunes, à l'âge de 14 ans, cela fait donc 20 ans que j'écris, j'ai l'impression que deux personnes s'affrontent. La première est une jeune barbare, alors que l'autre est une intellectuelle éduquée. Elles s'affrontent toutes les deux dans mon livre. J'emploie le terme barbare, car je viens d'un village où il n'y a ni livre, ni télévision, ni électricité. J'ai grandi avec mes grands-parents qui étaient analphabètes. Cette vie difficile au village a fait de moi quelqu'un de dur, peut-être aussi quelqu'un de violent. Donc je me bats en permanence contre cette personne. À 18 ans, j'ai quitté cette région pour aller étudier le cinéma à l'Académie de Pékin et écrire. Lorsqu'on m'a demandé « Connais-tu Jean-Luc Godard ?», j'ai dit « Non ». Et à partir de ce moment, j'ai complètement changé mon style de vie. Je me sens à l'aise. Une partie de moi réalise des films, l'autre écrit. Je n'aime pas le monde de l'écriture universitaire. Je n'aime pas les gens qui restent assis sans sortir et sans établir un contact physique avec le monde. J'ai donc choisi de réaliser des films pour rester en contact avec le monde.
Quand
j'étais une jeune punk, j'ai lu quelque chose de Patti Smith. Elle dit que pour elle, l'écriture, ce n'est pas l'inaction, c'est plutôt sauter partout dans la maison, crier, parler. C'est un mouvement très physique. Et j'ai dit, oui, je suis d'accord avec ça. Car la vie, en quelque sorte, c'est plus qu'écrire simplement sur un papier ou sur un clavier d'ordinateur. Et j'adore l'écriture lorsqu'elle prend un aspect physique.
Est-ce que le lien, c'est pas aussi des histoires de femmes?
It's an abstract question. I can only speak from my experience.
C'est une question abstraite. Je peux seulement parler de ma propre expérience, car je ne choisis pas d'écrire mes films avec des voix de femmes. Mais elles sont dans mes livres, elles sont féminines, mais féminines de manière violente. Je crois que c'est la forme que prend ma rébellion contre l'écriture masculine.
I thought it's very interesting, the history, big politics,
Je m'intéresse plus à un monde intérieur, à la sensibilité, à la douleur de l'âme et à nos peines quotidiennes. Et c'est peut-être cela qu'on appelle la sensibilité féminine. Par exemple, dans les 20 fragments d'une jeunesse vorace, Fang Fang est un personnage violent. Elle se bat contre Pékin et toute la Chine. Face à elle, il n'y a pas de personnage masculin, mais elle se bat contre tout le monde car elle déteste la ville. Elle cherche un foyer dans cette ville immense, laide et corrompue. Et je pense qu'il y a quelque chose que je placerais au-delà de l'opposition homme-femme. Fang Fang est un personnage qui veut faire entendre sa voix. Dans mon dernier livre, Petit dictionnaire chinois-anglais pour amants, la narratrice s'appelle Z. Z est comme un bébé. Quand elle quitte la Chine vers l'Occident, elle a essayé de se trouver une deuxième personnalité, une deuxième vie, ce qui est très douloureux. C'est comme si un bébé devait tout réapprendre alors qu'il a déjà développé une personnalité. C'est un autre genre de situation violente pour un personnage.
Ma jeunesse a commencé l'année de mon 21e anniversaire. Ou du moins, c'est ce que j'ai décidé. Lorsque j'ai pris conscience que j'avais peut-être moi aussi droit aux choses qui brillent. Si vous trouvez que 21 ans c'est tard, dites-vous bien que le plouc chinois de base saute en général directement de la case enfance à l'âge mûr sans passer par la jeunesse. Quitte à rater une étape, j'étais décidée à ce que ce soit la maturité. Être jeune ou mourir, tel serait mon destin. Il m'a suffi de remplir une fiche de candidature pour que ma vie change. Jusque-là, je n'étais qu'une paysanne mal dégrossie, tout juste bonne à ramasser des patates douces, récurer des toilettes et actionner des leviers dans une usine. Ok, je vivais à Pékin depuis quelques années, mais je restais une fille de la cambrousse dans l'âme. La métamorphose a eu lieu au studio cinématographique de Pékin, par une après-midi où il faisait une chaleur à crever. Des slogans du président Mao couvraient encore les murs du bureau. « Servir le peuple », lisait-on ici et là. Des mouches à tête verte bourdonnaient autour d'une gamelle où refroidissait un reste de nouilles. Un héros du peuple somnolait, assis devant son repas inachevé. Il était censé superviser l'inscription des figurants, une tâche qui l'avait apparemment épuisée. Il ne nous prêtait aucune attention. De toute évidence, à ses yeux, on ne valait pas mieux que ces mouches. Trois autres filles attendaient pour s'inscrire. Elles avaient l'air beaucoup plus cool que moi. Cheveux teints, bras tatoués, sac à main en simili-cuir et jeans troués. La totale, quoi. Elles caquetaient et gloussaient comme des oies. Mais je voyais bien que sous cette armure se cachaient des provinciales à la peau tannée, des bouseuses, des terres jaunes comme moi.
Ce livre est récemment traduit en français, Diao Lugo, mais vous, vous l'avez écrit il y a déjà 10 ans.
Yes, in fact, I wrote it when I was 18.
Je l'ai écrit à 18 ans. À cette époque, je n'avais encore jamais écrit de longues histoires avec des personnages, autrement dit un récit. Donc je ne savais pas écrire un roman.
You can have without narrative, without character is Proust.
À 18 ans, le seul livre sans récit linéaire et sans personnage principal dont j'ai entendu parler, c'était Proust. Donc je me suis dit, bien, essayons Proust. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'une histoire, il me faut juste un fragment. Donc ce livre correspondait à mes premières années d'écrivain. 10 ans plus tard, ce livre fut publié en Chine et je l'ai lu et j'ai pensé « Non, je ne suis pas d'accord avec ce livre, je dois le réécrire. » Et cela a engendré quelques problèmes pour les traducteurs car dans la langue chinoise, il n'y a pas du tout de ponctuation. Donc le traducteur ne sait pas quand arrêter la phrase en anglais. Lorsque la version anglaise est sortie, je l'ai lu et je me suis dit « D'abord, je ne suis pas d'accord avec cet auteur qui est en fait moi-même et je n'approuve pas non plus l'attitude de Fang Fang dans la vie. Laissez-moi réécrire ce livre en anglais. » Et maintenant, ce livre existe en 8 ou 9 langues et personne n'a la version originale. L'éditeur chinois m'a même envoyé un mail pour me dire qu'il adorait publier le livre. Et je lui ai dit qu'il s'agissait du même, qu'ils avaient publié 15 ans auparavant. Et ils ont eu du mal à me croire. Pékin fonçait vers l'avenir à la vitesse d'un train express, alors que ma vie n'allait nulle part.
Ainsi parle Fanfan dans les 20 fragments d'une jeunesse vorace, votre livre Diaoluguo, où l'on trouve pêle-mêle une fiche signalétique, un scénario de court-métrage, 20 clichés en noir et blanc qui suggèrent l'immensité de la ville de Pékin, des épisodes décousus d'un apprentissage voué à l'échec, l'apprentissage d'une jeune paysanne, Fanfan, qui va à la conquête des studios de la capitale, jurant toujours par le grand cornuau céleste. Elle pense qu'elle va faire partie de ceux qui brillent, mais sa vie n'est qu'une descente dans les bas-fonds, et tout ceci est raconté avec humour, car Fanfan, Diaoluguo, a une drôle de manière de parler.
Fanfan est un mélange de communisme et d'individualisme. Elle arbore le petit livre rouge de Mao en guise de chapeau. Et dans ce chapeau, il y a une lutte pour la vie et l'apprentissage de la vie, selon la doctrine de Mao. Mais son comportement reflète dans le même temps une Chine contemporaine, individualiste, très capitaliste, à la recherche d'un autre style de vie, ce qui est le cas de la jeune génération.
Écartelée quand même entre deux choses, entre les traditions, les souvenirs des parents, elle est très attachée à son enfance, à sa vie, à son village, mais en même temps fascinée par la ville.
Je pense qu'elle est perdue, choquée et désarçonnée. On est dans le registre de la confusion totale.
À l'image de la société chinoise qui a fait un bond du Moyen-Âge à la modernité.
Je me souviens quand j'ai écrit ce livre, il y a 15 ans, je détestais toute la littérature chinoise de l'époque. La grande histoire de Mao, la longue marche ou les empereurs, les concubines. Et je me souviens que j'étais très en colère contre tout ça. Donc je voulais écrire sur un personnage unique, jeune, qui rejette tout comme un jeune punk. Mais personne ne veut entendre son discours de punk en Chine, car c'est mal vu. Je voulais absolument écrire sur un personnage révolté. J'ai écrit ce livre avec colère. Je ne voulais pas que la grande histoire fasse de l'ombre à ce personnage dans le roman. Ça semble naïf, l'idée innocente d'un personnage pur et qui ne se fait pas écraser par la grande histoire.
Fanfan a quelque chose comme un grain de sable dans ses chaussures. Elle sait de se battre, c'est quelqu'un de très sympathique, elle est attachante, elle a de l'humour, mais en même temps quelque chose qui ne va pas bien en elle.
Dans son esprit, elle ne sait pas à quel sens se vouer, elle ne sait pas ce qu'est l'amour, elle ne sait pas si elle devrait croire à l'amour. Son réel problème, c'est qu'elle n'a jamais été aimée, ni par son pays, ni par les amants qu'elle fréquente. C'est le problème de la génération d'après le boom des années 70 et 80. C'est un mélange d'idéologie, on ne sait plus trop à quoi s'accrocher.
Regardez dans n'importe quel dictionnaire, vous ne trouverez pas l'équivalent chinois de romantique. On prononce liumantique en imitant l'accent anglais. Qu'est-ce que j'aurais fichu d'un mot pareil de toute façon? Le romantisme, ça ne courait pas les rues en Chine. On mange d'abord, on parle ensuite, comme disent les vieux. Et entre Xiaolin et moi, c'était le degré zéro du romantisme. On s'est rencontrés sur le tournage d'une série télé qui se déroulait à la cour impériale de la dynastie Qing. Le décor était censé reconstituer l'environnement du palais il y a 300 ans. Les pivoines dans les vases étaient en papier et les lotus dans la mare en plastique. J'interprétais une des innombrables servantes de la princesse, un rôle qui exigeait le port d'une tresse si lourde qu'elle tirait ma tête en arrière. L'assistante maquilleuse m'a gratifié d'un regard méprisant, puis avec une grimace, elle a attrapé mes cheveux pour y fixer l'encombrant postiche. Ma tâche consistait à pénétrer d'un air solennel dans le palais, à présenter le thé à ma maîtresse et à la peigner. Le tout sans desserrer les lèvres, bien entendu. Xiaolin était l'assistant du producteur. Autrement dit, il lui servait de chauffeur, de factotum et il nous aboyait ses ordres.
Il y a une sorte d'étrangeté comme ça entre les hommes et les femmes dans votre livre, surtout au plan du romantisme. Et je vous cite, vous dites « Regardez dans n'importe quel dictionnaire, vous ne trouverez pas le mot romantisme. On mange d'abord, on parle ensuite », disent les vieux.
Ce que je remarque dans cette Chine d'aujourd'hui, c'est l'absence d'amour et de vie émotionnelle, même si on mange à notre faim, qu'on vit bien. Des années 50 aux années 80, parler d'amour et de romantisme entre hommes et femmes était une attitude bourgeoise qui n'était pas encouragée par les autorités. Après les années 80, la Chine s'occidentalise et dans l'idée qu'on se fait de l'amour, il n'y a pas de place pour le romantisme, ça reste politique. Les jeunes ruminent avec colère car personne ne veut écouter leur discours stupide. Feng Feng est une de ces jeunes qui murmure avec colère. C'est un monologue permanent. Je ne pense pas que ça aurait fonctionné si j'avais écrit un chapitre à la manière de Jack Kerouac. On the Road est écrit comme un seul paragraphe, du début à la fin. Je me suis dit, pour que les gens puissent entendre ce murmure, je dois mettre une ponctuation et des chapitres. Ceci explique le désir de Feng Feng d'être écoutée, même si elle est punk.
Vous dites, Zhao Luguo, que la vie est comme un pied de cochon, on est obligé de manger ce que l'on vous sert. Alors, d'où vous vient, d'où vous tenez ce registre de proverbe, cet humour, cette autodérision?
Everyone told me my book has lots of funny things, and I didn't know, and I never know how.
Beaucoup de gens me disent que mon livre est amusant et je ne sais toujours pas comment j'ai pu faire parce que l'humour n'est pas une spécialité chinoise.
Maybe I wrote with a kind of innocence.
Peut-être que je l'ai écrit avec candeur et spontanéité parce que dans la société actuelle, les gens ne disent pas les choses directement. Et d'autre part, dans mes livres, tous mes personnages ont ce côté enfantin, presque bébé. Un enfant dit des choses sans trop réfléchir, des choses qui ne sont pas politiquement correctes. C'est vraiment un discours d'enfant.
Est-ce que Feng Feng, c'est votre double bienveillant, c'est votre double?
Je pense que tous les personnages que je décris dans mon livre sont une part de moi-même. Même les personnages masculins, ils sont des produits de cette culture qui mélange les traditions occidentales et orientales. Ils sont assez représentatifs de cette tendance.
J'ai vu un petit peu aussi un caractère un peu philosophique à ce livre. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui peut correspondre vraiment à la destinée de Feng Feng, c'est comment l'histoire peut détruire les gens mais ne peut ne pas vaincre les gens. Détruit mais pas vaincu.
Well, that's one of the big thing in this 20 fragments novel.
C'est une des choses les plus importantes de ce roman, les 20 fragments d'une jeunesse vorace, inspirée du vieil homme et la mère d'Hemingway. Je crois que je l'ai écrit parce que si l'on considère les générations de mes parents et celles de mes grands-parents, ils sont des victimes de notre histoire chinoise assez particulière. Mais ils n'ont pas été entièrement vaincus. Ce sont des victimes qui ont gardé une âme et une certaine force mentale, donc ils ont des armes pour survivre. Finalement est beau et promet un futur viable, c'est cette force de survie que les gens conservent malgré les vies brisées par l'oppression politique.
Merci beaucoup.
Merci.
Feng Feng, c'est peut-être un signe. Tu devrais changer de métier. Tu aimes lire. Tu t'y connais en cinéma. Pourquoi tu n'essaierais pas d'écrire un scénario sérieux? Si tu réussis à faire ne serait-ce qu'un premier jet, je suis sûr que je pourrais te présenter à des gens.
Moi?
Oui, tu sais. Ne te fais pas de reproches, ne souffre pas, ne te plains pas, tant que le premier jet n'est pas fini.
Qui a dit ça?
Tennessee Williams.
Tennessee Williams? C'est qui?
Un dramaturge américain du Mississippi. Un coin où il y a plein de tornades en été. Tu sais à quoi ça ressemble? C'est un peu comme un typhon, du vent et une pluie infernale. Mais c'est pas la question. Il a écrit une pièce très célèbre qui s'appelle Un tramway nommé Désir.
Drôle de nom pour un tram! J'imaginais déjà que cet écrivain venait d'un monde scintillant, balayé par des tempêtes spectaculaires. Tornade, désir, ces mots me donnaient des frissons. Je n'avais jamais entendu parler de ce Tennessee Williams, mais je me raccrochais aux paroles de Wheezy. J'ai nettoyé l'assiette de ravioli au porc et à la ciboulette, soudain requinqué. Wheezy, tu es mon meilleur ami. N'importe qui peut crever sur cette planète, je n'en ai rien à cirer, même ma mère. Mais si tu meurs, je hurle!
Après son petit dictionnaire chinois-anglais pour amants, paru en 2008, l'auteur et cinéaste Zhao Luguo poursuit son travail de sape du roman traditionnel et confirme son talent pour la forme courte et le mélange des genres. Avec cette curiosité littéraire, elle traduit donc à merveille le mal-être de la jeunesse chinoise et le gouffre qui se creuse entre la modernisation de la Chine et l'archaïsme des mentalités. 20 fragments d'une jeunesse vorace de notre invité Charles Hugo paraît chez Boucher-Chastel. Merci à Camille Geoffrey et à Eric Lancien qui ont préparé, réalisé cette émission qui se referme. Je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio France Internationale.